le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et cette semaine dans le magazine citoyen, nous allons parler de l'art oratoire ou de l'éloquence en compagnie de nos invités. Nous recevons deux des trois étudiantes de l'UNC qui ont récemment gagné un concours inter-université international. C'était au début du mois, c'était à La Haye. Assia Benaraj Testa et Anaïs Hoth sont avec nous. Également en plateau, Annabelle Arnaud qui est professeure de lettres modernes au lycée Jules Garnier qui organise le concours Rhetorica dont la finale aura lieu demain mercredi. Enfin, Gwenolé Bouvet qui est formateur en prise de parole est également avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'éloquence. Alors on va revenir d'abord avec vous, Assia Benaraj Testa et Anaïs Hoth, sur votre aventure jusqu'à La Haye, parce que ça a été un long parcours qui vous a permis de décrocher ce concours. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour arriver à vos fins, pour essayer de remporter ce concours? Comment vous êtes mobilisée? Enfin, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu votre aventure. Alors c'est Anaïs qui va commencer.
Je pense que ce qu'on a mis en place, en premier lieu, c'est vraiment une organisation, je dirais, sans faille. Donc on s'est directement réparti des rôles, donc à savoir, on rédigeait toute une position, donc on défendait à la fois la position négative, enfin on préparait en tout cas à la fois la positive et la négative, et on savait ce qu'on allait défendre.
À partir d'un thème donné.
Exactement, à partir d'un thème, donc d'un thème général qui était les métiers et traditions de la francophonie. Et ensuite, on avait vraiment des sujets très spécifiques, assez fermés. Et donc, on partait l'une et l'autre, soit dans les recherches positives, soit négatives. Et donc, on a fonctionné comme ça tout le long. En fait, je pense que ce qui a fait aussi que ça a marché, c'est qu'on a toujours gardé la même dynamique, le même fonctionnement. Et donc, on s'est toujours aidés ensemble et on a progressé comme ça.
Et combien de temps pour préparer ces argumentaires pour ou contre?
Une semaine.
Une semaine, oui. C'est relativement rapide.
C'est rapide en sachant qu'à côté de ça, on est en master, donc on avait des cours, on était en stage et Assia a préparé un mémoire. Donc ouais, c'était le soir.
Alors, il y a eu des moments en visio, parce que oui. Ce concours a commencé, d'abord vous étiez en Nouvelle-Calédonie, puis après les sélections vous ont poussé jusqu'à La Haye. Le stress est monté au fur et à mesure, Assia Benaraj Testa?
Alors, le stress était différent dans le sens où, je dirais, le stress au tout début, c'est le premier match. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, c'est très rapide. On ne se doute pas, en fait, que ça passe aussi vite. De l'introduction à la conclusion, l'ajout verbal, c'est 20 minutes de match. Et on se dit qu'en 20 minutes, par rapport à nos recherches, on avait une trentaine de pages de recherche. On se disait, j'ai des arguments géniaux, ça va le faire. Et en fait, on se rend compte, faut faire une sélection. Faut choisir le plus pertinent, faut choisir le plus parlant. Et c'était là qu'il y avait les premières miettes de stress, sachant qu'on est à distance. Donc il y a aussi toute la logistique. Est-ce qu'on nous voit bien? Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on porte assez bien la voix?
Il y a des paramètres extérieurs, en quelque sorte.
Déjà, indépendamment de nous. Et ensuite, il y avait forcément le stress de la finale, qui là était en présentiel, donc avec 7 juges. Dans tous les autres matchs, on n'avait que 3 juges qu'on ne voit pas, qui ne sont pas présents dans la visioconférence. Et là, on a une table avec 7 personnes alignées qui nous scrutent de nos moindres faits et gestes, de nos moindres expressions, et qui ne ratent pas une miette de ce qu'on dit. Et là aussi, il y a les petits stress du début.
Ça veut dire que finalement, l'art oratoire et l'éloquence est une bonne prestation, entre guillemets. Ça doit être à la fois sur le fond, bien évidemment, mais aussi sur la forme. C'est quelque chose que vous avez travaillé, Anaïs?
Oui, je pense que c'est même plus sur la forme que sur le fond, finalement. Je pense qu'on peut dire plein de choses quand on sait les dire. C'est vraiment... Enfin, on avait beau préparer un fond, une trame. De toute manière, on était complètement dépendant de ce que l'autre équipe allait avancer le jour J. Donc, ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont on allait amener nos arguments, en fait. C'est savoir être convaincant, savoir persuader, donc à la fois jouer sur les émotions et sur la raison, et surtout avoir la gestuelle, montrer qu'on est serein dans ce qu'on avance, et voilà.
Alors, Gwenolé Bouvet, vous êtes formateur, vous, en prise de parole. Vous êtes l'un des organisateurs, notamment, des fameuses conférences TEDx. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez entendu?
Alors déjà, je voudrais vous dire félicitations à vous deux, parce que c'est extraordinaire ce que vous
avez
fait.
On va dire même à vous trois, même si la troisième...
Oui, c'est vrai que voilà, il vous manque la troisième. Vraiment, félicitations, parce que je pense qu'il faut énormément de courage pour faire ce que vous avez fait. Et en plus, vous avez gagné, donc c'est extraordinaire. Vraiment, bravo, vraiment, bravo, bravo. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire? Bah oui, plein de choses. En fait, on discutait déjà hors antenne avant de commencer. Et il y a plein de choses qu'on s'est échangées, qui moi, résonnent avec mon métier de formateur. La forme, ça compte tellement. Je dis souvent, avec le même texte, on peut faire quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de vraiment très, très, très mauvais. Donc rien que la façon de dire un texte, un même texte, ça change tout. Donc j'imagine que vous avez utilisé quelques effets de manche, que vous avez utilisé des silences, que vous avez utilisé des émotions, vous avez fait l'ascenseur émotionnel peut-être. Vous pourriez peut-être nous en parler un peu plus, peut-être.
Allez-y, répondez donc.
Sur la forme, alors nous, ce qui est assez rigolo, c'est que dans notre formation, tous nos enseignants nous répètent que c'est la forme au service du fond. Pour dire qu'on peut avoir le fond le plus travaillé, le plus abouti qui soit, si la forme ne lui rend pas service, ça dénature tout le travail. Et c'était aussi là la deuxième difficulté, c'est que nous, en tant que juristes, on a l'habitude, ce qui nous paraît très convaincant, ça va être la norme, les règles,
les arguments,
hiérarchie, le fond. Et en fait, on s'attarde moins sur tous ces effets de manche, sur toute cette rhétorique, la répétition, des questions rhétoriques, des choses qu'en fait, nous, dans notre formation, on ne nous demande pas de faire de telles rédactions ou de telles expressions orales. Et c'est ça aussi qui a été très enrichissant et dépaysant à la fois, puisqu'on se rend compte que parfois, quelques bonnes analogies sont beaucoup plus convaincantes que la démonstration d'études statistiques ou de normes.
Annabelle Arnaud, vous vouliez réagir ?
Oui, alors je veux tout à fait, moi également, vous féliciter parce que vous avez eu un parcours exceptionnel. Et pour répondre par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, dans le concours qu'on organise au lycée Jules Garnier, Rhetorica Garnier, le fond du discours compte, mais les jurys ont aussi à prendre en considération toute la communication non-verbale, à savoir le regard, la posture, le sourire. Et c'est vrai que ça compte pour moi également, autant que le fond du discours.
Alors, on va, au-delà de votre exemple, entre guillemets, remarquable d'ailleurs, on va voir aussi ce qu'apporte l'éloquence dans la structuration peut-être du travail, de la pensée, de la personnalité aussi, parce qu'on a l'impression, et vous n'allez sans doute pas m'affirmer ça, Annabelle Arnaud, que ça engage beaucoup de choses finalement quand on se met à parler en public.
Ben, tout à fait, et surtout qu'on constate à l'heure actuelle que les jeunes parlent peu, voire pas du tout. Et quand ils parlent, souvent, ils parlent mal. Donc pour nous, c'est un vrai cheval de bataille de travailler l'expression orale. Ça leur servira certes à l'école, ça leur servira dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie personnelle. Donc pour nous, c'est un vrai challenge, surtout à Jules Garnier, où nous avons affaire à un public plutôt technologique, donc pas du tout des formations axées sur la littérature, la communication. Et donc pour nous, c'est un vrai défi d'organiser un concours d'éloquence au lycée Jules Garnier.
Donc l'éloquence passe aussi, il faut quand même le dire, parce qu'on parle beaucoup des à côté, mais aussi par le langage. Et le langage, il faut aussi le maîtriser, Gwenole Bouvet.
Ça aide énormément.
Oui, mais effectivement, il y a beaucoup aussi aujourd'hui de personnes qui parlent difficilement, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à exprimer leurs idées. Donc c'est le premier travail à faire avec les personnes qui veulent se produire devant un public.
Une personne qui a envie de performer quand elle prend la parole, il est essentiel qu'elle lise et qu'elle lise beaucoup pour, on va dire, développer son dictionnaire personnel. Sans avoir les bons mots, c'est extrêmement difficile de communiquer de façon efficace. On tombe souvent à côté. On tourne autour du pot et finalement, on ne dit pas vraiment les choses. Donc, c'est essentiel d'avoir du vocabulaire et le bon vocabulaire. Et pas trop non plus. C'est-à-dire que, par exemple, du jargon pour briller en société, ça ne marche pas. Parce qu'on va tomber complètement à côté de la plaque et notre auditoire ne va pas se sentir concerné.
Donc, il faut aussi tenir compte de son auditoire et des personnes devant lesquelles on s'exprime.
C'est sûrement la première question qu'on doit se poser quand on fait une prise de parole en public, c'est à qui je parle. Et on va pas parler de la même façon à des enfants, à des ados, à des adultes, à des techniciens, à des ingénieurs, à des profs, à des avocats, à des vieux. Bref, c'est tout le temps différent.
Est-ce que ça vous a obligé ? Parce que si j'ai bien compris, vous avez surtout un vocabulaire juridique de par vos études. Est-ce qu'il a fallu apprendre à sortir de ce vocabulaire-là ? Est-ce que ça vous a fait faire un travail personnel important ? Est-ce que vous avez plus lu, comme le disait Gwenole Bouvet, peut-être qu'auparavant, pendant la préparation de ce concours ? Comment ça s'est passé ?
Complètement. Je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a commencé la préparation de nos sujets, c'était vraiment un travail de décortication de chacun des termes. Et donc, on allait rechercher leur signification, donc au pluriel, en fait, tous les aspects que ça pouvait, auxquels ça pouvait amener. Et donc, beaucoup de lectures, beaucoup de doctrines, d'auteurs. Enfin, vraiment, chercher loin, en fait, pas se contenter de la première définition qu'on va trouver sur Internet. Et donc, nécessairement, oui, ça demande de toujours se challenger un peu.
Tout type d'auteurs.
Tout type de livres.
Y compris, on va dire, l'école grecque et romaine, dont on sait que la rhétorique a été quelque chose de très important.
Oui, vraiment. Enfin, on essaie de ratisser large, en fait, parce que les sujets en tout cas qu'on avait étaient quand même relativement fermés, ce qui n'empêche qu'il y avait toujours une marge de manœuvre qui laissait la place à l'appréciation personnelle. Et donc il fallait anticiper en fait notre propre perception, mais la perception que l'équipe en face allait avoir, mais également celle du jury. parce que finalement, on se rend compte qu'on a tous des attentes complètement différentes et une vision du sujet et de la façon dont on l'aborde qui est relativement différente également.
Assia Benarad, je teste ça. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point-là, la lecture, y compris la lecture à haute voix ?
Oui, alors nous, ce qui était du coup assez cocasse, c'est que dans tous nos sujets, en réalité, on s'est beaucoup plus attardé sur des recherches sociales, historiques et économiques, loin du juridique, parce qu'on a tout de suite vu le travers, puisque en réalité, nous, on a beau être une équipe de juristes, toutes les autres équipes ne faisaient pas du droit. On avait des ingénieurs, on avait d'autres étudiants qui suivaient des formations pour les former à la diplomatie ou des métiers diplomatiques. Il y avait réellement un très beau paysage de différentes disciplines, ce qui faisait qu'on se doutait finalement de quelles étaient les approches qui risquaient d'avoir dans certains sujets. Donc on se préparait plus en se disant, très bien, on va avoir des juges qui ont l'habitude, qui ont noté plusieurs prestations, plusieurs matchs sur des sujets différents, et on a une équipe qui est plus sensible à tel point d'argument. Donc on se mettait dans la peau de l'autre et on se disait, très bien, si j'étais l'équipe adverse, j'aurais envie d'aborder le sujet comme ça, et en fait, on est complètement sorti de notre logique juridique au service de l'éloquence, pour le coup.
Alors Annabelle Arnaud, est-ce que tout le monde est doué pour la prise de parole en public ? Est-ce que ça peut concerner tout le monde ? Et qu'est-ce que vous diriez, par exemple, à un jeune qui serait tenté, mais qui a peur de se lancer dans cette aventure en disant, ça va mener trop loin et j'en suis a priori totalement incapable ?
Alors, je pense que l'aisance verbale peut être pour certains effectivement un don, mais que c'est accessible à tous dès lors qu'on le souhaite et dès lors qu'on le travaille. Pour ma part, je vois les élèves en début d'année complètement réticents à l'idée de participer à un concours d'éloquence. Et puis à partir de petits exercices d'écriture de slam, d'improvisation à l'oral devant les camarades, certains gagnent en aisance. Et on aboutit finalement à des discours qui sont géniaux parce qu'en plus on laisse le choix du sujet aux élèves. Donc ils peuvent véritablement parler de quelque chose qui leur plaît. Et on les voit éclore comme des fleurs. Et franchement, quand on pense au début de l'année et à ce que l'on voit le jour de la finale, on est vraiment hyper fiers de voir leur progrès. Et eux aussi,
ça veut dire que l'un des premiers bénéfices de ce type d'activité, c'est la confiance en soi, si on veut
bien. Bien sûr, la confiance en soi. Oui, surtout quand on est adolescent ou jeune adulte, qu'on se cherche un peu. Et certains se découvrent de véritables talents cachés qu'ils ne soupçonnaient pas.
Alors à l'inverse, Gwenolé Bouvet, parce que vous voyez des gens qui veulent a priori prendre la parole, est-ce que certains, vous leur dites au bout d'un moment, va falloir partir de très loin.
Alors les personnes que j'accompagne, c'est des personnes de tous horizons. Alors ça dépend, il y en a qui sont très à l'aise, très très à l'aise, d'emblée on le voit et ça va être facile. Et puis d'autres sont pas à l'aise du tout. Mais avec le travail, on y arrive. Et c'est ça qui est chouette avec la prise de parole en public, c'est que même quand on n'a pas d'aptitude comme ça au départ, en fait, il y a plein de techniques, d'astuces qu'on peut mettre en place et qui, mises toutes bout à bout, eh bien, à la fin, ça fonctionne, ça fait une belle petite salade avec tous les ingrédients et ça marche. Et donc, en fait, moi, j'ai envie de dire aux personnes qui ont envie de s'exprimer en public, de partager un message, si vous vous sentez nul aujourd'hui, eh bien, c'est pas grave, parce qu'il faut bien commencer. À un moment donné, on commence de zéro et puis après, on avance pas à pas. Et c'est comme si on apprenait un nouveau sport, une nouvelle discipline. On apprend les gestes les uns après les autres. Et bien là, c'est exactement pareil. On apprend les techniques les unes après les autres. Et puis voilà.
Et puis pour gagner, il faut s'entraîner.
Exactement. Il faut travailler, s'entraîner, se préparer.
Ouais. Vous avez senti une progression, vous, au fur et à mesure que le concours avançait entre le début et cette finale à La Haye C'est-à-dire ?
Complètement. Je pense qu'on avait toutes des points forts et des points à travailler chacune. Je sais que pour ma part, c'était vraiment le débit. Vraiment. Et donc, je parlais trop vite. Et on m'a entraînée à parler avec un stylo dans la bouche. Il fallait que je répète mes textes avec un stylo à la bouche en permanence. Et en fait, je trouve qu'on le voit, mais on le voit peut-être pas nécessairement tout de suite. Déjà parce que c'est difficile de remarquer son progrès personnellement. Enfin, il faut vachement prendre du recul sur ça. Mais également parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. En fait, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. On prend exactement, comme vous le disiez, des éléments de correction par-ci, par-là. On s'entraîne, on prend différentes techniques. Mise bout à bout, on se rend compte qu'en fait, on progresse.
Vous avez senti votre progression aussi, Assia Benarad, c'était ça ?
Oui, surtout sur la gestion du stress, les tout premiers matchs, la sensation d'avoir un peu la gorge qui serre,
le
premier mot sur lequel on bute, où on se dit « mince, ça y est, c'est la déconfiture, on se décompose et on n'arrive plus à faire abstraction de la moindre petite erreur ». Et en fait, sur la fin, c'est juste prendre du plaisir, c'est « une fois que je suis lancée, ça va le faire et je sais parler français, je suis capable d'exprimer mes idées et… » Je me lance.
Alors, le concours, oui.
Oui, je l'ai dit, en fait, c'est un élément très intéressant, en fait, cette gestion du stress. Et il y a un truc qui caractérise beaucoup notre société, notamment franco-française, par rapport au système anglo-saxon, notamment, c'est qu'on ne parle pas trop quand on est à l'école. On prend assez peu la parole. De temps en temps, il y a quelques exposés, des choses comme ça. Mais c'est quand même très, très rare. Et on arrive au bac de français et c'est la première fois qu'on va parler devant un mini-public. Donc, c'est pas facile. Et donc, petit à petit, en fait, on se fabrique une sorte d'autoroute vers le malheur, la souffrance. Et prise de parole, c'est directement associé à ça. Et donc, il y a un gros travail à faire de reprogrammation pour que la prise de parole, ça devienne du plaisir. Et on va essayer de fermer l'autoroute qui était pourtant super bien bitumée, avec des beaux rails de sécurité, des panneaux indicateurs pour dire « c'est par là, c'est par là », mais ça va être un gros coup de stress et ça va pas être marrant, pour aller plutôt vers le petit chemin qui serpente et qui va amener vers le plaisir de délivrer son message, d'être compris et de faire avancer le monde.
Mmh. Annabelle Arnaud.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est pour cette raison que depuis 3 ans maintenant, j'organise un concours de lecture à voix haute pour les classes de seconde. Là aussi, ils ont le choix de leur texte, quelle que soit la littérature, dès lors que c'est de la littérature francophone, quel que ce soit du conte, de la poésie, du théâtre, peu importe. Mais il me semble effectivement fondamental, dès l'arrivée au lycée, de se familiariser avec ces prises de parole, puisque, comme tu le disais, hein, des élèves qui arrivent le jour du bac de français avec aucun entraînement et aucune expérience de l'oral, eh bien, c'est risqué.
Oui, parce que la lecture à voix haute, sont l'un de ses bénéfices, ils sont sans doute plus nombreux que ça, mais c'est le fait de n'avoir pas à préparer quelque chose sur le fond, puisque le matériau existe, mais il faut savoir le transmettre, en quelque sorte.
C'est ça, rendre la lecture expressive. Là aussi, c'est une des grandes missions de l'Éducation nationale, de remettre la lecture à voix haute au goût du jour.
Et c'est vrai que les élèves ne parlent pas assez en cours ? Ils ne sont pas assez sollicités ?
Ils sont sollicités, mais effectivement, on en revient toujours à cette habitude de ne parler le moins possible, parce que parler devant ses camarades, on risque de provoquer les rires, les moqueries, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a un véritable stress à prendre la parole lorsqu'on est adolescent.
Alors, la question qu'on va aborder maintenant avec vous quatre, c'est de savoir, et notamment avec le témoignage d'Assia et Anaïs, qu'est-ce que ça a changé, ce concours pour vous ? Est-ce que d'abord, je ne parle pas de changement personnel, mais par rapport à votre formation, par rapport à votre cursus, par rapport à vos aspirations, est-ce que vous êtes dit « ouais, le droit, c'est vachement bien, mais ce que j'ai découvert là, ça m'ouvre d'autres portes ». Est-ce que ça a bougé des choses en vous, Assia ?
Alors, pour ma part, puisque j'envisage d'être professeure d'université
en droit... Parce que le langage juridique, il est un petit peu sec quand même.
Oui, mais du coup, ce qui était assez intéressant...
En tout cas spécifique.
Ce qui est assez intéressant, c'est que, puisque j'envisage la voie de l'enseignement, ça a été assez formateur de se rendre compte qu'on y est déjà confronté quand on veut parler problématique juridique avec des personnes. On n'emploie pas le même langage. Nos enseignants, au fur et à mesure de la formation, il y a une gradation de la difficulté du langage, du lexique. Ils ont de plus en plus d'attentes. Et j'ai fait un stage en cabinet d'avocat où là aussi, quand il y a un client qu'il faut lui expliquer quelque chose, on ne peut pas l'expliquer comme on l'explique à un camarade, comme on l'explique dans un devoir ou sur une copie d'évaluation. Donc, je dirais, ça a été très enrichissant sur ce point-là, de diversifier le langage et surtout savoir s'adapter au public plus que quand on est dans notre microcosme juridique avec tous ces termes compliqués et surtout ce vieux français encore appliqué.
Mais ça n'a pas changé votre vocation de professeur.
Non.
Anaïs.
Pour ma part, c'est tout pareil. Moi, je souhaite être avocate et je pense que ça m'a du coup confortée dans l'idée que c'était possible. Je sais qu'avant, j'étais assez réticente à l'idée de m'exprimer justement publiquement. Toujours cette peur un peu du jugement de l'autre. Et en fait, ça m'a appris à me détacher, mais aussi, comme le disait Assia, à adapter donc mon langage, mais la manière dont je vais aborder des thématiques en fonction des personnes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important dans le domaine de l'avocature, puisqu'il faut savoir à qui on s'adresse, mais également faire preuve de créativité dans dans la manière dont on aborde les choses, en fait.
Mmh. Annabelle Arnaud, on peut dire que les élèves qui se lancent dans ce type de concours, dont certains vous les accompagnez au sein du lycée Jules Garnier, c'est aussi une structuration intérieure que vous leur proposez ?
Alors déjà, concernant le concours, il est obligatoire pour tous les premières années de BTS.
Alors ça, au moins.
Donc, c'est un exercice qui est noté, évalué. Donc au départ, ils sont tous dans la même, compétition. Ils sont tous dans la même compétition. Ensuite, chaque enseignant en sélectionne deux pour arriver à une finale de 10 étudiants. Et là, on a un jury extérieur qui vient classer les trois premiers. Mais je tiens à préciser que les 10 seront récompensés. Et je remercie d'ailleurs tous mes partenaires et nos sponsors qui, une fois de plus, ont été très généreux. Et puis, oui, effectivement, je pense que chaque enseignant... Alors, cette année, on n'est que des filles. Donc, chaque enseignante prépare ses élèves comme elle l'entend, avec peut-être de l'aide extérieure. Moi, je sais que je sollicite Alain Mardel, qui est comédien, metteur en scène, et qui donne systématiquement d'excellents conseils d'art oratoire, justement, à mes étudiants. Après, je sais qu'il y a des collègues qui font venir d'autres comédiens, mais chacun, effectivement, prépare ses élèves.
Mais vous sentez que les jeunes, ça les structure de l'intérieur ?
Complètement, bien sûr, parce qu'ils ont des conseils auxquels ils n'avaient pas forcément pensé au départ. Et puis, on fait différents exercices, on lit le texte sans tonalité, de façon complètement neutre, pour voir si déjà le texte est fluide. Et puis après, on met l'intention au moment où elle est nécessaire dans le discours. C'est ça qui est intéressant.
Gwenolé Bouvet, est-ce que les personnes que vous accompagnez ou vous formez vous font des retours sur ce que ça leur apporte ? Est-ce qu'elles s'expriment un petit peu, c'est le cas de le dire, sur l'évolution que cette prise de parole a provoquée en elles ?
Pour certaines personnes, ça leur change véritablement la vie. Parce que ne pas réussir à parler en public, c'est un vrai handicap. Un vrai handicap dans le travail, dans la vie de tous les jours. Quand on doit prendre la parole en réunion et que finalement, on devient tout rouge, qu'on commence à avoir des plaques, qu'on ne trouve plus ses mots, etc. C'est extrêmement handicapant. Donc les personnes qui viennent me voir, oui, ça leur change la vie. Parce qu'on travaille sur deux grands volets. Évidemment, les techniques de prise de parole, les astuces, etc. Mais aussi la gestion du stress. Et ça, c'est fondamental parce que c'est la première étape pour commencer à parler. Si on n'arrive pas déjà à sortir le premier mot, eh bien, c'est compliqué. Et puis, bah, forcément, après, il y a une sorte d'effet boule de neige ou de cercle vertueux où on a de plus en plus confiance. On va oser prendre la parole dans une réunion. On va peut-être avoir des collègues qui vont nous dire « Ah, mais c'était super, t'étais beaucoup plus à l'aise. » Et hop, on engage ce cercle vertueux et on a de plus en plus confiance.
Et après, on peut demander une augmentation à son patron.
Exactement.
Ça, c'est dans le cas ultime. Vous avez vécu une expérience très intense. Ça a duré combien de temps entre les premiers concours et votre victoire ? Il faut le dire comme ça, à la haie.
5 mois.
5 mois, ouais. C'est quand même hyper intense. Ça vous a donné envie de continuer, de poursuivre, d'inciter d'autres à le faire parce que cette expérience... Visiblement, elle vous a beaucoup profité, donc vous n'allez pas la ranger dans un coin en disant « ça y est, on l'a fait, on passe à autre chose ».
Je pense qu'à titre personnel, en tout cas pour ma part, ça a un petit côté addictif quand même. C'est vrai que ça manque un petit peu de plus recevoir les sujets, de les préparer. Mais également, oui, ce serait vraiment chouette de voir une nouvelle équipe calédonienne présenter le concours l'année prochaine, puisque c'était la première participation de l'UNC cette année au concours. Mais également, pourquoi pas, la création d'un club de débat, comme on le voyait dans les autres universités, des équipes qui y participaient également. Et la volonté, pourquoi pas, de participer à d'autres concours, puisqu'il en existe plein.
Ouais, donc vous êtes encore sur la lancée, de dire on va pas s'arrêter là. Non. Pareil pour vous, Asia ?
La même chose, et même on s'est rendu compte par rapport au concours auquel nous on a participé, on a également la possibilité d'être juge pour d'autres matchs à l'avenir et potentiellement de coacher. Donc ça serait très. Ça nous tente toutes les deux, en tout cas, de potentiellement coacher d'autres équipes de l'université et de leur transmettre cet engouement et ce plaisir qu'on a eu à rencontrer chacune des équipes, mais surtout à débattre avec elles de nos positions, de nos points de vue, parce que même si on travaillait tous nos sujets, de la méthode de recherche à finalement les positions et les éléments dégagés, c'était des fois diamétralement différent. On se retrouve le jour J avec finalement une personne qui va débattre A alors qu'on a le même sujet et nous on a pensé à B. Et pour le coup, ça c'est de là que finalement on dépasse cette logique d'évaluation et de jugement et qu'en fait on prend du plaisir à s'interroger sur pourquoi l'autre y pense ça. Comment il en est arrivé là et finalement, parfois, on peut même être convaincu. Donc, le jour J, on ne le montre pas, mais C'est très, très, très plaisant et on espère que ça inspire les prochaines générations de participer à des événements dans ce genre.
Ben voilà, la relève est prête, Annabelle Arnaud.
C'est noté, je vous invite l'année prochaine pour coacher mes deux finalistes, sans problème.
Avec plaisir.
Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus. Vous avez gardé le goût de la lecture ?
Tout à fait.
Vous lisez beaucoup ?
Oui. Bah oui, à titre personnel, et puis pour notre cursus également,
c'est
pas le choix.
C'est une nécessité dans notre cursus.
Oui. C'est une nécessité. La lecture...
Pareil, c'est une nécessité.
Bah oui. Obligatoire.
Nécessaire. Obligatoire, voilà. Bon, bah écoutez, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Citoyens pour
merci
nous avoir
beaucoup
parlé de votre expérience et de ce qu'elle a provoqué, et de parler de l'éloquence en général.